De nos jours, la plupart des smartphones peuvent lire un code-barre grâce au logiciel de reconnaissance de forme, notamment Google Lens. Il existe de nombreuses applications gratuites, parfois sans pub ni exponentiel, comme QR Code and Barcode Scanner. Dans le domaine professionnel, pour une cinquantaine d'euros, on a des lecteurs sans fil ultra basiques en forme de poignée qu'on surnomme douchette ou Telson. Les bas de gamme utilisent une diode rouge et un capteur CCD de smartphone. Les hauts de gamme utilisent encore un balayage laser et reconnaissent plus efficacement et plus rapidement les codes-barres scannés. Honnêtement, l'investissement se conçoit si la rapidité est vraiment un facteur ultra déterminant pour votre usage. Ces poignées sans fil sont accompagnées de leur dongle récepteur en USB et d'une base de rechargement. Une fois le dongle USB branché, ce type de lecteur est reconnu par n'importe quel ordinateur comme un simple clavier sans même avoir besoin de driver spécifique. On a même des lecteurs qui se connectent en Bluetooth, donc du coup parfaitement reconnus sur smartphone et tablette. En fait, une fois un code-barre reconnu par le scanner, il envoie la référence comme si on avait entré la suite de chiffres suivie de la touche Entrée. Donc, ça peut même marcher dans un navigateur web sans même avoir besoin d'être adapté. Il existe aussi des appareils très perfectionnés destinés aux industriels de la vente en gros. En gros, d'ailleurs, c'est un smartphone Android très limité, captif du réseau Wi-Fi de l'entreprise, avec un lecteur laser. Normalement, une application est installée dessus pour le lier au WMS, le Warehouse Management System, le logiciel de gestion de stock, ce qui fait qu'à chaque scan d'un produit et de son numéro de série, grâce à l'usage de géolocalisation indoors, comme les réseaux UWB, Ultra Wideband, et on en a déjà parlé dans cette émission, on peut savoir dans quelle allée, à quelle position, voire à quel étage est stockée chaque pièce. Ce genre d'appareil peut se trouver pour une centaine d'euros, mais les prix peuvent augmenter selon les possibilités de connexion ou la qualité du capteur. Et il faut ajouter des licences d'usage pour connecter un service central de gestion de stock, et là, ça douille. Eh ben croyez-moi, ce genre d'appareil vaut largement l'investissement d'achat et d'installation, c'est diablement pratique. Que celui ou celle qui n'a jamais perdu un temps monstre à retrouver ce satané second carton dans le magasin Ikea me savonne. Bon alors, maintenant que vous avez de quoi lire un code-barre, vous allez écrire votre premier code-barre. Et il y en a qui le font à la règle et au feutre pour s'amuser. Je vous recommande de choisir un code-barre Gétine sur un produit et d'aller sur la page de l'émission cpu.pm/189 pour retrouver le lien online EAN Barcode Generator, parce qu'en radio, c'est assez complexe à vous expliquer. Un code-barre peut avoir une taille allant de 6 à 32 chiffres et ne code que des chiffres. Sur les bords extérieurs, vous trouverez deux barres parallèles fines. Ce sont à la fois des indicateurs de timing et de début et de fin de message. Cet indicateur peut être répété au milieu d'un code-barre afin de servir de délimiteur. C'est le cas par exemple en Gétine où il est présent au milieu. Ensuite, chaque caractère est encodé par un petit groupe de barres dont l'épaisseur et la distance entre elles codent le chiffre sur 5 bits. Et un vide entre chaque groupe d'une distance toujours égale. Il y a trois représentations possibles pour chaque caractère, dont chacun est alterné et dont les premières et troisième versions sont négatives pour le même caractère. Deux types de représentations sont utilisés pour la première moitié à gauche et seulement un type à droite. Ces alternances à gauche permettent d'encoder le premier chiffre sur l'ensemble du bloc, ce qui, ajouté à la somme de contrôle à la fin, permet d'assurer l'intégralité du nombre vu. La différence de type de représentation entre première et deuxième moitié permet au scanner de savoir s'il lit le message à l'endroit ou non, et donc de corriger. Autre avantage, un scanner qui n'a lu que la première moitié d'un code peut parfois scanner immédiatement pour tenter de retrouver la deuxième partie et reconstituer le message. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Franchement, je vous recommande l'article de la Wikimedia francophone qui explique très bien comment est conçu un code-barre. Le standard du code-barre permet une tolérance, en termes de dimension entre 80% de la largeur et 200%. En termes de contraste, il est fortement recommandé de garder plus de 50% de contraste. J'ai un petit souvenir ému, je lisais une célèbre revue de vulgarisation scientifique du début des années 90 et le bar tabac près de chez moi était au top de la technologie et avait donc un lecteur de code-barre sur sa caisse. Il y a eu un numéro de cette revue qui avait été pour lui un enfer. Le maquettiste avait décidé de mettre le code-barre en vert un peu sombre sur vert un peu clair. À l'impression, cela voulait dire pas un pet d'encre noire ou magenta. Le lecteur laser était incapable de le lire, il fallait donc saisir le numéro manuellement en caisse. Bizarrement, tous les numéros suivants de cette respectable revue scientifique eurent le code-barre en noir sur blanc. Bon, et maintenant si on parlait du nombre qui est représenté dans le code, ben ça on le fera dans une prochaine émission.